Tout d'abord, merci pour l'invitation au colloque. Donc, on va en effet faire une présentation sur le jeu d'éveil babylonien, ses problèmes de conservation et sa restauration. Babylonia est intéressant à plusieurs égards, et notamment pour ce qu'on a vu là dans les deux jours de colloque, ça croise pas mal de points qu'on a abordés. On a parlé hier des objets ethnographiques, des prototypes d'objets aussi dans les collections militaires. Là, on croise plutôt le domaine de l'art contemporain et du design, puisque c'est une pièce réalisée par un collectif de designers italiens, Studio 65, en 73 et qui a été édité en 86. Nous conservons dans les collections du Centre national des arts plastiques une version de 86. Donc c'est un jeu d'éveil qui mesure dans sa configuration minimale 1,50 m sur 1,50 m par 30 cm d'épaisseur. Les matériaux constitutifs connus au début de l'étude et réputés pour leur instabilité sont la mousse de polyuréthane Guflex, brevetée, et la peinture au latex Guflac, elle aussi brevetée. Ces données ont été transmises par le fabricant Gufram, et on reviendra là-dessus puisqu'on a parlé aussi ce matin de la nécessité de questionner les informations transmises par les fabricants, et là ça s'est révélé opportun puisqu'en réalité on a trouvé plus de constituants dans cette pièce. La collaboration mise en place donc, entre le département du Fonds national d'art contemporain, donc, qui est la collection du Centre national des arts plastiques, et Pauline Druon, donc, à l'époque étudiante en conservation-restauration d'œuvres peintes à l'École supérieure d'art d'Avignon, a permis donc, en 2010 la réalisation d'une étude approfondie du jeu Babylonia et sa restauration complète. On se situe là dans le cadre d'une recherche fondamentale avec un luxe extrême de consacrer une année entière à l'étude, à la restauration d'une pièce, ce qui est assez précieux pour nous puisque, comme beaucoup d'institutions, on réagit exclusivement, enfin, par commodité et par temps aux demandes de prêts et de dépôts, et on réagit souvent dans l'urgence et on fait des interventions assez minimes. Ce projet s'inscrit dans le cadre des partenariats que le CNAP met en place avec les écoles d'enseignement supérieur, donc dans les domaines de la conservation-restauration, comme c'est le cas ici, mais aussi dans ceux des métiers de l'exposition. Par exemple, nous avons travaillé avec des étudiants de Paris 1 Nanterre en 2010. Le commissariat d'une exposition au lieu éphémère à Paris leur a été confié. Voilà. C'est le volet pédagogique des missions de diffusion du CNAP qui mettent les œuvres du fonds à disposition des étudiants pour des travaux de recherche, des études ou des projets d'événements. Ces actions permettent non seulement une approche pratique de cas théoriques, mais aussi une transmission mutuelle et complémentaire de savoir et la consolidation d'un réseau de futurs professionnels. Cette collaboration mise en place autour du Babylonia est le résultat de l'initiative de Pauline, qui est venue nous voir, qui en fait avait découvert l'œuvre lors d'un stage au Musée national d'art moderne et avait émis le souhait de travailler sur la pièce dans le cadre de son mémoire. Je vous dis ça aussi parce que le Musée national d'art moderne possède un exemplaire similaire de la pièce. Le MNAM n'ayant pas donné suite à sa requête, Pauline a donc sollicité le CNAP, qui compte dans ses collections un exemplaire comparable. Elle a été reçue par Marilyn Debord, chargée du suivi des restaurations au département du FNAC, puisque nous n'avons pas de restaurateur à demeure au FNAC et nous travaillons avec des restaurateurs indépendants. Compte tenu de la nature de nos collections, nous comptons 90 000 pièces dans notre collection, donc on ne pourrait pas, même avec une équipe de restaurateurs à demeure, répondre à tous nos besoins. Mais en revanche, nous avons la chance d'avoir des chargés de suivi de restauration qui, eux, assurent le suivi de la collection, notamment tous les constats d'état, puisqu'on a énormément de mouvements d'œuvres, et le suivi avec des restaurateurs professionnels. Cette étude, Pauline a exposé son projet de recherche, donc a été validé par nos équipes, et celui-ci prévoyait, au-delà de l'étude précise de la restauration de la pièce, une analyse et des hypothèses de travail transposables à d'autres œuvres de la collection, présentant les mêmes problèmes de conservation-restauration liés à leurs matériaux constitutifs. Vous savez tous que la mousse de polyuréthane est un vrai problème pour les collections, et on a énormément de pièces en mousse de polyuréthane dans la collection art décoratif design du Centre national des arts plastiques, et à cet égard c'était aussi une opportunité à saisir que de laisser Pauline travailler sur cette pièce. Donc pendant plus d'une année, les équipes du fonds ont accompagné le travail de Pauline, à qui la pièce a été envoyée pour être étudiée dans les ateliers de l'école. Il s'en est suivi un véritable échange, en voie de résultats, confrontation des données, discussion sur les méthodes d'intervention, qui a permis un travail remarquable que l'institution a immédiatement valorisé. Donc là, c'est vraiment le mouvement inverse. Généralement, on restaure, comme je vous dis, pour exposer suite à des demandes de prêt. Et là, on avait une pièce qu'on ne pouvait plus présenter parce qu'elle n'était pas dans un état suffisamment bon pour être exposée. Et grâce à ce travail de restauration, on a pu présenter la pièce qui est actuellement visible à l'exposition du Collector qui a lieu en ce moment au Tripostal de Lille, qui présente 150 pièces de la collection du Centre national des arts plastiques, puisque nous sommes une collection sans mur. Voilà. Donc je vais passer la parole à Pauline.
Alors, fin de l'année 2009, donc au début de cette recherche, Babylonia était dans un état de conservation préoccupant, puisque comme cela a été dit, les matériaux constitutifs de l'objet sont par nature instables. Donc de ce fait, plusieurs dégradations étaient visibles. Celles-ci nuisaient à l'esthétique de l'œuvre, mais surtout mettaient en péril la pérennité du jeu. Donc là, je vais me pencher sur les trois strates existantes qui ont été rendues par l'analyse de l'œuvre. Donc en premier, la mousse de polyuréthane Guflex, donc le support. Alors les 22 éléments qui composent le Babylonia ont pour support la mousse de polyuréthane Guflex, qui est un matériau breveté par la société Gufram. Ce matériau n'a pas pu être analysé de manière précise au cours de nos recherches, puisqu'en effet, la couche colorée était dans un bon état de conservation. La société Gufram n'a de plus pas souhaité prendre part à notre étude. Les composants de cette mousse de polyuréthane souple nous étaient donc inconnus, ce qui est toujours le cas à l'heure actuelle. Toutefois, nous avons pu constater que ce support était encore élastique, donc paramètre qui pouvait paraître surprenant lorsque l'on connaît les propriétés des mousses de polyuréthane. Cette caractéristique est due à un ensemble de... Oui, les mousses de polyuréthane sont connues pour leur instabilité physico-chimique dans le temps. Donc cette caractéristique est due à un ensemble de paramètres, tels que les composants employés, leur fabrication, leurs conditions environnementales, ou encore leur utilisation. Les dégradations récurrentes de ce matériau sont l'apparition de craquelures ou encore l'effritement de la matière pouvant atteindre une réduction en poudre dans les cas les plus graves. D'une manière générale, nous pouvons dire que les polyuréthanes sont sensibles à l'humidité, à l'oxygène, aux polluants, aux ultraviolets. De plus, selon la compatibilité des polyuréthanes et de leurs adjuvants, certaines réactions peuvent avoir lieu, comme la migration de ces derniers à la surface. L'étude plus poussée du matériau que j'ai eu l'occasion de réaliser dans le cadre de mon mémoire m'a poussée à conclure que l'état de la mousse en 2010 résultait du bon état de conservation de la couche colorée et à la présence d'un vernis. L'hypothèse de travail qui a donc primé rapidement a été la suivante. La peinture et les vernis appliqués à la surface de la mousse ont probablement joué un rôle de protection dans la non-dégradation du support. Donc maintenant, je vais vous parler de la peinture Guflac. Cette peinture présente sur le jeu Babylonia est une peinture Guflac, matériau là aussi breveté par la société Gufram. Cette strate a ici pu être analysée, cela en collaboration avec le Centre interrégional de conservation et de restauration du patrimoine, le CICRP, à Marseille, et plus précisément avec M. Alain Colombini, ingénieur au pôle scientifique et spécialisé en art contemporain. Cette peinture de couleurs jaune, bleu, rouge et blanche a été définie comme étant une peinture ayant pour liant un polyisoprène. Ce liant élastomère procure à la couche colorée la particularité d'une élasticité importante. Cette caractéristique permet à la peinture de pouvoir s'adapter à une mousse souple. Lors de la manipulation des briques, la couche picturale pouvait se déformer sous la pression exercée, puis reprendre sa forme initiale sans altération. Toutefois, le polyisoprène est lui aussi un matériau sensible à nombre de paramètres, puisqu'en effet, il se dégrade au contact de l'oxygène, de l'ozone, de la chaleur, du froid et de la lumière. Ces caractéristiques en font un matériau fragile. Toutefois, sur le jeu Babylonia, la couche colorée était dans un bon état de conservation. Les analyses IRTF réalisées n'ont révélé qu'une oxydation minime de la peinture. Nous sommes de nouveau face à un constat qui peut paraître surprenant, mais qui s'explique là aussi par la nature de la stratigraphie de l'œuvre. Le bon état de conservation de la couche colorée s'explique en effet très simplement par la présence d'une troisième couche de vernis assurant une fonction protectrice. Cette troisième couche, nullement mentionnée par les fabricants ni les éditeurs et jamais consignée dans aucune base de données, se révèle donc déterminante pour la bonne conservation de la pièce. Je tiens ici à préciser que ce vernis n'est pas un vernis qui aurait été appliqué lors d'une restauration précédente, puisque le Babylonia qui est présent dans les collections du CNAM présente le même vernis altéré de la même manière. Donc maintenant le vernis. Les analyses effectuées pour définir la nature du vernis ont révélé la présence d'un vernis polyuréthane à base de polyester et dont l'isocyanate est de nature aliphatique. Cette strate était dans un état de conservation inquiétant. Elle était non seulement oxydée, ce qui a provoqué un jaunissement important du vernis, elle était également poisseuse, ce qui a participé à un encrassement accru de la surface, comme on peut le voir sur les images au niveau de la brique rouge. Enfin, elle pelait par endroits, ce qui a engendré l'apparition de lacunes sur l'ensemble du jeu, donc comme vous pouvez le voir aussi sur la diapo. Donc, cette dégradation de la couche de vernis rendait un aspect de surface extrêmement hétérogène qui nuisait à l'esthétique de l'œuvre et à sa conservation. Cet état du vernis a pu être engendré par un taux d'humidité relative trop important, puisqu'en effet, un fort pourcentage d'humidité relative peut engendrer une réaction d'hydrolyse du matériau. L'oxygène a également pu jouer un rôle dans le processus de dégradation. Enfin, il faut savoir que ce type de vernis est connu pour jaunir facilement. L'état de conservation de ce vernis est rapidement apparu comme particulièrement problématique dans le sens où il ne jouait plus son rôle de couche de protection. Les strates sous-jacentes étaient alors confrontées aux diverses conditions environnementales auxquelles elles sont particulièrement sensibles. Intervenir au niveau du vernis apparaissait donc comme une évidence. Notre objectif était double puisqu'il s'agissait d'une part de recréer une couche permettant la protection de la peinture et de la mousse et d'autre part d'améliorer l'esthétique de l'œuvre par la réinstauration d'une homogénéité de la surface. Le diagnostic posé, il a donc fallu revenir à l'objet, son histoire et sa vocation pour décider avec l'institution gestionnaire de la meilleure manière de procéder.
Donc Babylonia, un jeu d'éveil pour enfants, on revient en effet à l'œuvre et à l'histoire et la création de l'objet. L'histoire de Babylonia remonte en fait à 1973, année où le collectif de designers italiens Studio 65 crée Ordinatissimo, donc de l'italien très ordonné, qui est en fait l'ancêtre direct du jeu. Cette pièce réalisée en laminé et médium, je m'excuse, j'ai pas d'image, est d'abord conçue comme un objet décoratif pour la maison. Pour Gianni Arnaudo, qui est l'un des membres du groupe, elle représentait l'ironie d'une scénographie impériale dont l'objectif était de célébrer le prestige du propriétaire. C'est à resituer dans le cadre du design radical des années 70 en Italie. À cette époque, le regard porté sur les enfants est en pleine mutation. L'éducation par le jeu se développe considérablement et le système des crèches est en pleine conversion. Dans ce contexte, Studio 65 a donc l'idée de proposer aux écoles piémontaises un nouvel instrument permettant l'amélioration de la communication et de l'expression des enfants. Fonctionnant comme un énorme Lego, Babylonia devait permettre aux enfants de réaliser, je cite Gianni Arnaudo, leurs histoires en fonction de différentes scénographies, en se basant sur leur imagination, leur fantaisie. Château, trône, temple, maison, etc. Donc vous voyez là, dans ces visuels, toutes les possibilités d'architecture possibles avec le jeu. Et je vais vous montrer en image, puisque Pauline a pu réaliser pendant son mémoire, voilà, une petite animation qui montre le déplacement des briques et toutes les configurations possibles. Donc reprenant la forme d'Ordinatissimo, mais adaptant les matériaux et modifiant la destination d'usage, l'objet décoratif s'est transformé en jeu d'éveil pour enfants. Le médium a ainsi été remplacé par la mousse de polyuréthane et le laminé par du latex coloré. Plusieurs réflexions ont par ailleurs été menées en collaboration avec Francesco De Bartolomeis, professeur de pédagogie à l'Université de Turin. Le jeu a été édité jusqu'en 1986 et il a connu un très grand succès dans les années 70. Cependant, il était très cher et ça reste un objet et une création de design, ce qui justifie aussi sa présence dans nos collections. Et il n'a en réalité pas pu être acheté par les écoles piémontaises, qui était sa première destination. Cela dit, répondant à un projet pédagogique clair, le jeu présente un certain nombre de caractéristiques essentielles qu'il convient d'identifier clairement, notamment pour orienter l'intervention de restauration de la manière la plus juste possible. Les matériaux employés sont à cet égard primordiaux. Le choix de la mousse de polyuréthane présente en effet le double avantage d'être légère, ce qui permet une manipulation facile pour des enfants en bas âge, et souple, ce qui permet aussi une approche ludique et sécurisée des briques. Les couleurs choisies sont elles aussi importantes. Elles sont vives et tranchées, lumineuses, et jouent volontairement sur les différents contrastes à créer par l'agencement des modules. Elles répondent ainsi à des visées pédagogiques de stimulation de l'imagination et de la créativité. Compte tenu de ses caractéristiques essentielles et après le diagnostic de l'œuvre donc posé par Pauline, il est apparu clair que la restauration devait prioritairement intervenir sur le vernis. En effet, en jaunissant et en pelant, le vernis altérait non seulement l'homogénéité de la surface et la couleur des briques, mais aussi à terme la souplesse de la mousse. Or, l'intérêt, l'innovation et la nature même du jeu d'éveil se définissent précisément par cette double caractéristique de maniabilité et de puissance colorée. Ici, c'est donc autant l'esthétique de la pièce que sa fonction programmatique qui ont été prises en considération pour la restauration. L'enjeu était de conserver au mieux et le plus longtemps possible les matériaux originaux constitutifs et brevetés par Guffram, la mousse Gufflex et la peinture Gufflac. Non mentionné sur les fiches techniques, comme on l'a dit, le vernis, qui a pourtant joué un rôle essentiel dans la conservation de l'œuvre, est devenu, paradoxalement, l'un des agents de dégradation de la pièce. C'est de ce point de vue que s'est posée la question, aussi difficile que légitime, de son remplacement. On parlait de compromis ce matin. Dans ce genre de décision, il y a aussi parfois des prises de risque, puisqu'en effet, on n'a encore pas suffisamment de recul sur tous ces matériaux récents. Mais malgré tous ces questionnements, on a opté au Centre national des arts plastiques pour une opération de dévernissage. Cette opération est délicate du point de vue du restaurateur, puisque la difficulté consiste à intervenir sur le vernis tout en maintenant la couche de peinture intacte. Mais aussi du point de vue du responsable de collection, l'opération consistant à enlever l'intégralité d'une couche constitutive de l'œuvre pose en effet la question de la nature originale de la pièce une fois dévernie. Comment concilier valeur historique et valeur d'usage? Voilà, c'est le genre de questions qu'on s'est posées à cette occasion. Il n'existe probablement pas de réponse univoque sur le sujet, mais concernant l'édition de Babylonia, le choix a été fait de privilégier la valeur d'usage du jeu, et ceci malgré le fait que la pièce ne soit précisément pas à destination d'une utilisation collective. Il ne s'agit pas ici de restaurer la pièce pour la mettre à disposition des enfants, mais pour en restituer le sens. Plusieurs éléments sont donc rentrés en ligne de compte. Donc premièrement, la pérennité de l'objet, comme on l'a dit, conserver la couche de vernis ancienne mettait en péril la conservation de l'œuvre sur le long terme, et à contrario, l'enlever et la remplacer garantissait une protection de la pièce. Deuxième élément pris en compte, le sens originel de l'œuvre. La nature du projet pédagogique qui a présidé à son élaboration est lisible, nous l'avons vu, dans les matériaux, dans la souplesse et la couleur des modules. Restaurer l'aspect général de la pièce participe donc d'une volonté de restituer le sens et les visées poursuivies par ses créateurs. Troisième point pris en compte, l'absence de mention concernant le vernis de la part de l'éditeur. Contrairement à la mousse et à la peinture, qui sont elles toutes deux brevetées et protégées au titre de la propriété industrielle, le vernis, lui, n'a pas été soumis à cette même paternité. De ce point de vue, on peut considérer que sa nature est moins essentielle dans la constitution de l'identité de l'œuvre. Enfin, dernier point qui a été considéré et non des moindres, la présence dans une autre collection publique française d'un exemplaire similaire de l'édition, qui lui n'a pas été déverni et qui permet de conserver un état vintage de l'œuvre et du coup d'avoir en parallèle un échantillon de la pièce et de son vieillissement sans intervention. Je repasse la parole à Pauline pour le choix du traitement.
Donc la question du traitement a été axée sur la problématique du vernis, comme cela a été dit. L'objectif ici était d'allier à la fois la conservation et la restauration, tout en respectant l'intégrité de l'œuvre, sa cohérence et sa singularité. Concrètement, le travail autour du vernis avait pour objectif de réinstaurer une couche de protection pour les strates sous-jacentes, d'éliminer le côté poisseux de l'œuvre, de rendre la surface homogène et de rétablir l'unité des coloris présents. Ainsi, nous avons fait le choix de réaliser un dévernissage puis de revernir l'ensemble des pièces. La difficulté était donc de choisir un mélange de solvants capable de retirer le vernis altéré, cela sans avoir d'action sur la couche colorée et le support. Une étude sur les diverses sensibilités des matériaux constitutifs de l'œuvre a donc été réalisée. Il en est ressorti que l'acétone et les solvants aromatiques étaient capables de solubiliser la couche de vernis sans agir sur la couche colorée. La mousse, elle, y était apparemment peu sensible. Nous avons donc réalisé des tests sur des échantillons, puis sur les quatre coloris du Babylonia. Suite à ces différents essais, nous avons alors choisi de conjuguer l'action de l'acétone et du xylène, car le vernis, le polyisoprène et la mousse de polyuréthane répondaient bien à ces solvants. Donc là, sur la diapositive, vous pouvez voir l'œuvre en cours de dévernissage. Donc le résultat est assez flagrant. Donc cette étape du traitement a été particulièrement longue, environ 80 heures, car il s'agissait d'intervenir sur 13 mètres carrés de surface et sur un vernis particulièrement épais. Toutefois, le dévernissage a été réalisé sans encombre par action mécanique par le biais d'un coton. Je tiens à préciser que suite à ce dévernissage, nous sommes assurés de laisser un temps de rétention suffisant et nécessaire avant de revernir le jeu. Donc, suite à ce dévernissage et le revernissage, aussi, il nous fallait choisir un nouveau vernis capable de protéger les différentes strates tout en étant suffisamment élastique pour préserver l'aspect moelleux du jeu. Pour ce faire, nous avons choisi un panel de vernis répondant à toutes les propriétés souhaitées. Nous avons ensuite réalisé des échantillons reprenant la stratigraphie du jeu babylonien sur lesquels nous avons appliqué ces différents vernis. Certains ont également été testés avec des additifs que sont le tinuvin 292 qui est un antioxydant et le craton G1650 copolymère capable de rendre un film de vernis plus élastique. Alors, je tiens à faire une petite remarque par rapport aux échantillons que vous pouvez voir. Donc, ils ne sont pas colorés, puisqu'en fait, les peintures au latex n'existent plus. Et étant donné que Guframe n'a pas souhaité participer, je n'ai pas pu avoir un échantillon de peinture Guflac. Donc, en fait, les mousses ont été... j'ai appliqué sur les mousses, en fait, un lait de latex, donc qui est du polysoprène naturel. Et en fait, c'est un produit qui est transparent, donc invisible à l'œil nu. Étant donné que la peinture Guflac présente sur l'œuvre était légèrement oxydée, nous avons en premier lieu passé donc, le lait de latex sur la mousse que nous avons fait vieillir légèrement, donc avec un vieillissement accéléré. Puis nous avons verni les éprouvettes et là nous avons donc repassé au vieillissement accéléré. Le but était d'être le plus proche possible en fait, de la stratigraphie de l'œuvre. Voilà. Donc les éprouvettes ont été soumises à un vieillissement accéléré, puisque nous souhaitions ici nous assurer donc, de la compatibilité des résines et solvants de mise en œuvre avec le polyisoprène et la mousse de polyuréthane, de l'efficacité ou non des additifs, et enfin de l'évolution de l'élasticité des films dans le temps, puisque le côté moelleux de l'œuvre étant primordial pour sa compréhension. Donc ces tests de vieillissement ont été réalisés en collaboration, là encore, avec le CICRP. Ils nous ont permis d'arrêter notre choix sur une résine semblant répondre à tous nos critères. Donc la composition du vernis choisi était la suivante. Donc du Regalrez 1126, dans lequel a été ajouté donc 2% de tinuvin 292 et 2% de craton G1650. L'ensemble de l'œuvre a alors été verni par pulvérisation. Nous souhaitions en effet contrôler au mieux l'épaisseur et l'homogénéité du film appliqué. Ce choix permettra, entre autres, aux différentes zones de l'œuvre d'évoluer et de se dégrader de manière analogue dans le temps. Ce revernissage a ainsi permis de réinstaurer une véritable couche de protection, ainsi qu'un aspect satiné semblable à l'aspect de l'œuvre d'origine.
La collaboration qui a ici pu être mise en place a indéniablement favorisé le travail de recherche et de restauration du jeu Babylonia, que vous voyez ici, donc dans son contexte d'exposition à Lille en ce moment. Les différents dialogues ont en effet permis des échanges de données et de points de vue nécessaires à un travail optimal. L'étude de cet objet, alors méconnu, nous a permis à la fois de mieux connaître son histoire et ses spécificités, mais également les matériaux Guframe. Les recherches effectuées offrent ainsi une meilleure appréhension de l'objet. Cet objet modulable et ludique s'impose ainsi comme un véritable jeu d'éveil et de construction dédié à l'imagination des plus jeunes. Et nous comprenons alors l'importance que peut apporter l'association des différents acteurs de la conservation et de la restauration au service d'une œuvre.
L'enjeu de ce travail à présent est qu'il profite, au-delà de cette étude de cas, aux autres objets édités par la société Guframe et conservés dans les fonds et musées français et internationaux. À terme, nous souhaiterions également retenter la mise en place d'un dialogue avec la société Guframe, les intérêts étant doubles, mieux comprendre leur démarche et leur politique artistique et technique, ainsi qu'éventuellement réfléchir ensemble à la question de l'évolution de leurs pièces dans le temps et à leur restauration. Donc pour finir, je voulais remercier également les arts décoratifs et l'Institut national du patrimoine pour leur invitation. Et pour ma part, je souhaite également remercier Madame Nathalie Cavelier, professeure agrégée chargée de cours en architecture à l'Université Lille 3, ainsi que Monsieur Frédéric Bertrand, conservateur restaurateur mobilier et professeur à l'École supérieure d'art d'Avignon, pour leur aide et leur soutien lors de la réalisation de mon mémoire. Voilà, merci.